Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 12. Il a plu tout le week-end. Dimanche, Anthony passa de longues heures à regarder les gouttes s'écouler sur la fenêtre de toit de sa chambre en écoutant des chansons déprimantes. À plusieurs reprises, il s'est demandé s'il n'allait pas simplement abandonner Jean-Jacques, ses abricots et ses principes d'un autre siècle. Il était d'ailleurs certain qu'il le comprendrait très bien et ne lui en voudrait même pas, tant la philosophie de vie de cet homme semblait lui permettre de traverser toutes sortes d'épreuves sans heurts. Mais chaque fois, sa conscience et le souvenir de Marion le torturaient suffisamment pour qu'il rejette cette idée. Étendu sur son lit, les yeux au plafond, écoutant Mike Oldfield, il essaya de faire le point sur sa situation. Jeune diplômé, fraîchement sorti d'une grande école, déjà courtisé par plusieurs multinationales qui chassaient les têtes bien pleines dès la connaissance des résultats des examens, à l'aube d'une carrière qui s'annonçait palpitante, avec un niveau de vie confortable, il avait le blues. L'expérience de ces derniers jours, bien sûr, l'avait déstabilisé. Mais surtout, elle faisait écho à un sentiment qu'il avait déjà dû étouffer, une fois ou deux, pendant ses études. Cette impression de vivre hors sol, comme ces tomates cultivées sous serre et indépendantes des saisons, de leur lieu de vie, de la terre. À New York, Paris ou Tokyo, par-delà les cultures, et indépendamment des hommes, les mêmes recettes s'appliquaient, toujours. Les mêmes chiffres façonnaient les modes de production, la manière de travailler, de vivre. Étudiant, il ne pouvait pas résister à cette transmission forcée de valeurs qui n'étaient peut-être pas les siennes. Ou peut-être l'étaient-elles. Après tout, il avait toujours rêvé de belles voitures qui l'isolaient du sol, des cages de Faraday dans lesquelles il rêvait de se voir enfermé. Il imaginait les voyages qu'il ferait, les avions qu'il prendrait, les hôtels où il déposerait ses valises pour quelques jours, où il partagerait son lit, temporairement, avec une working girl de son espèce, sans s'attacher à rien ni personne, avant de s'envoler pour une autre destination, redresser une autre usine en réduisant les coûts de production, fonder une nouvelle start-up. Était-ce bien ses rêves ou ceux que la société lui avait inculqués à son corps défendant? Était-ce d'authentiques désirs ou des chimères hollywoodiennes profondément ancrées dans son cerveau en 20 ans de télévision, de publicité et de cinéma? Il n'était plus étudiant maintenant, il était adulte et maître de son destin, responsable. Allait-il mettre toute son intelligence au service de valeurs dont il doutait de la sincérité et de la pertinence? À tort ou à raison, il pensait que Jean-Jacques pouvait l'aider à répondre à cette question, mais la réponse l'effrayait déjà, comme un saut dans le vide, dans l'inconnu d'un nouveau paradigme. Un réflexe le fit sursauter sur son lit. Il venait de sombrer, une microseconde peut-être, dans l'inconscience, et la partie consciente de son cerveau s'était manifestée aussitôt. L'impression de tomber dans un trou bien connu de tous les insomniaques et des angoissés chroniques. À cela se mêlait le trouble amoureux. Deux filles que tout opposait, presque de façon caricaturale. La brune, riche, étudiante, fille à papa, tailleur Chanel, délicate, maquillage impeccable, brillante, inaccessible, lointaine. La blonde, campagnarde, volontaire, solide, authentique et voisine. Choisir l'une d'elles, c'était épouser un mode de vie. Soirée mondaine dans les capitales, grands restaurants, luxe et spa pour l'une, cueillette dans les champs, pique-nique improvisé et douche au grand air pour l'autre. Choisir à condition qu'on lui laisse ce choix. Il n'avait pas de nouvelles d'Audrey depuis bien longtemps, son profil Facebook restait désespérément inactif, et Marion naviguait vers les antipodes à l'heure qu'il était. De plus, rien n'indiquait qu'elle fût intéressée par lui, par ce qu'il était. Encore un sursaut. Les bras qui se tendent sur le couvre-lit pour stabiliser, sa tangue. Le manque de sommeil. Qui suis-je? Se demanda-t-il à nouveau. Celui qui a réussi à s'extirper de sa classe sociale, à monter d'un niveau ou deux, et sans regret? Ou celui qui va gâcher ses aptitudes intellectuelles pour ne pas trahir sa famille et ses idéaux puérils? La réponse, ce n'était pas Jean-Jacques qui l'avait, c'était lui seul. Mais Jean-Jacques pouvait la révéler. Mieux que lui-même ou que ses parents. Il trouverait peut-être même, sans en avoir conscience, les clés qui lui permettront de décoder son génome, son essence. Comme l'adolescent s'oppose à son père pour construire sa propre personnalité, il devait confronter son modèle à celui de Jean-Jacques pour décider de la suite de son existence. Il sortit de sa chambre et descendit au rez-de-chaussée. Ses parents étaient dans le salon, ils regardaient l'émission dominicale de Michel Drucker dont ils ne connaissaient pas le nom. Les yeux fixés sur le téléviseur, ils ne soupçonnèrent pas sa présence et ne sentirent pas son regard empli de compassion et de reconnaissance. Deux sentiments qu'il n'avait jamais su leur exprimer directement. Il descendit encore d'un étage et examina du sous-sol le ciel couvert de nuages noirs. La pluie avait redoublé, aussi oublia-t-il l'idée de prendre son vélo. Il monta dans sa voiture en se disant qu'elle n'avait plus le charme d'antan. Il frissonna en imaginant s'en acheter une nouvelle avec ses premiers salaires. Il avait quelques idées en tête, une Audi peut-être, un coupé, mais il n'était pas très à l'aise avec l'image que cela renvoyait. Il roula doucement. La pluie faisait du bruit sur le pare-brise. La voiture avait tendance à s'ouvrir sur chaussée mouillée. Il s'engagea lentement sur le chemin qui menait à la maison de Jean-Jacques. Sous la pluie, elle semblait abandonnée du monde, triste. Anthony l'observa quelques secondes, moteur éteint depuis sa voiture. Jean-Jacques n'était pas encore rentré, sans doute. Les cars doivent être rares, et l'Ardèche ne possède pas de voie ferrée en exploitation. Il sortit néanmoins de la voiture, et entendit par-dessus les bruits d'écoulement d'eau dans les chéneaux et sur la toiture, une mélodie qui semblait traverser les murs. Il s'approcha et fut saisi au ventre par la tragédie que paraissait décrire le morceau de piano qu'il entendait. Il pensa immédiatement au regard de Marion dans son récent cauchemar où elle s'enfuyait sans espoir de retour. Il parvint à se glisser sur la terrasse sans faire de bruit et aperçut Jean-Jacques à travers la porte d'entrée restée ouverte. Les yeux fermés dans un rictus qui témoignait d'une profonde douleur, ses mains allaient et venaient sur le piano blanc dont les basses faisaient trembler les livres sur les étagères de la bibliothèque. Il l'observa longtemps jusqu'à ce que le morceau se terminât, laissant s'installer un silence dramatique qui humecta les yeux d'Anthony. Jean-Jacques ouvrit enfin les siens et vit le jeune homme qui masquait son émotion sur le pas de sa porte. « Entre, je t'en prie, » dit-il d'une voix douce et assurée. « Je ne voudrais pas vous déranger. C'est aussi ce que j'ai dit aux oiseaux avant de commencer à jouer. Vous jouez divinement bien. Non, je n'ai jamais fait de piano. Marion sait jouer, elle. Elle est partie? J'en ai bien peur. Elle vous manque? Tu n'as donc pas entendu la polka endiablée que je viens de jouer ? » répondit-il en souriant tristement. « La musique et les livres sont mes seuls compagnons aujourd'hui, » ajouta-t-il en faisant un geste vers l'impressionnante bibliothèque. « Je suis là aussi. C'est vrai, viens t'asseoir, on sera deux à se morfondre. Elle te manque à toi aussi. » Anthony fit un pas dans sa direction mais s'arrêta aussitôt en entendant la deuxième partie de la phrase. La main sur le genou, le regardant par-dessus le piano, Jean-Jacques attendait sa réponse. « Je... Marion ?» Pardon, ma question est prématurée. Ton attirance pour elle, que même mes arbres ont dû deviner, n'est pas encore officielle et assumée comme telle. Mon attirance pour... Oublie ce que j'ai dit. Quand je suis seul et triste, il m'arrive d'être amer. Donc tu es venu pour me réconforter? Je voulais voir si tout allait bien, si le car... Ce trajet t'a inquiété, pas vrai? Mais tu sais, des tas de gens ne se déplacent pas en voiture et ne s'en portent pas plus mal. Dans ce cas, je vais vous laisser. C'était juste pour m'assurer de... » Anthony fit un pas en arrière, ne comprenant pas le ton employé par Jean-Jacques. Ce dernier se rendit compte de la distance qu'il mettait entre eux, malgré lui sans doute parce qu'il l'avait surpris dans un moment de communication intime avec son instrument. Il se leva et passa un bras dans le dos du jeune homme et l'invita à s'asseoir en s'excusant encore. « Allez, assieds-toi. Je vais te faire goûter un truc qui va nous réconcilier tous les deux avec la vie. C'est sans alcool parce que je ne bois pas plus d'alcool que toi, rassure-toi. » Anthony s'assit pendant que Jean-Jacques sortait deux verres et une bouteille sans étiquette, renfermant un liquide orange foncé, presque marron. Il s'assit à son tour et remplit les deux verres après avoir retourné la bouteille pour décoller la pulpe du fond. « À Marion, » dit-il en levant son verre. Anthony ne répondit pas, mais leva son verre à son tour en se forçant à sourire. Jean-Jacques ne le quittait pas des yeux, attendant qu'il plonge ses lèvres dans le liquide coloré. Le jeune homme but une gorgée et ferma les yeux. À l'intérieur de ses paupières closes, l'image de Marion se dessina très distinctement. Elle était dans l'arôme même de ce breuvage, et Jean-Jacques, il en était certain, avait prémédité son coup en lui offrant ce filtre au goût simple de pomme. « C'est elle qui l'a fait ? » demanda Anthony qui peinait à reprendre ses esprits. « Comment l'as-tu deviné ? C'est un banal jus de pomme comme un autre, comme tu en as déjà bu des centaines dans ta vie. » « Non, il est différent, mais je suis incapable de dire pourquoi. Il y a de la cannelle ? Un ingrédient particulier ? De la pomme, rien que de la pomme d'un pommier on ne peut plus normal, qui donne les mêmes fruits depuis 30 ans. Alors quoi ? Alors rien. C'est le jus de pomme de Marion. Si je prends les mêmes pommes, que j'en extrais le jus de la même façon, j'obtiens une pisse d'âne qui ressemble vaguement à du jus de pomme. Il n'en a ni le goût, ni la saveur. Anthony prit une nouvelle gorgée de ce nectar, en essayant de ne pas se laisser submerger par des émotions parasites. Immédiatement, lui revint en mémoire l'odeur de sa peau, l'image fugace de son corps qui sortait de la douche. Ce jus de pomme, c'était elle. Tout ce qu'elle représentait était dedans. Jean-Jacques s'amusa de l'air absent de son invité. « Alors, À la deuxième gorgée, ton analyse scientifique, c'est divin. Pas très académique, dis-moi, cette réflexion. Où as-tu laissé ton esprit cartésien? Il y a forcément un ingrédient qu'elle garde secret. Elle ne vous le dit pas, même à vous. Je l'ai vu mettre en bouteille le liquide que tu as dans ton verre. J'ai assisté à toute la préparation. Et vous, vous expliquez ça comment? Jean-Jacques s'offrit une gorgée de jus de pomme qu'il savoura longuement avant de répondre en prenant la main du jeune homme dans la sienne et en le regardant dans les yeux. Tu l'apprendras. Avec Marion, rien vraiment ne change, mais tout est différent.